RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Hommage à Alain Dumel. Les grandes gueules sont là en direct en ce mardi 14 juillet à quelques heures de ce France-Espagne. On est chaud pour cette demi-finale que vous vivrez bien sûr en intégralité en direct sur RMC avec toutes les équipes des sports avant et après le match. Et en attendant, ben, on égrène quand même l'actualité parce que l'actualité malheureusement ne s'arrête pas, notamment sur le front des incendies avec Bruno Poncet, Antoine Dierce et Barbara Lefebvre. On va s'arrêter un instant sur ce qui se passe à Fontainebleau. Déjà 1900 hectares partis en fumée. Le feu n'est toujours pas fixé. Il continue malgré des moyens importants engagés, des canadaires, 850 pompiers qui sont en lutte contre les flammes et deux suspects qui ont été interpellés parce que ces incendies, parce qu'il y en a eu plusieurs départs de feu, sont sûrement d'origine volontaire et peut-être même criminelle. Alors, est-on assez ferme avec ceux qui déclenchent ces incendies ? Deux suspects donc. L'un des deux suspects est un jeune homme de 18 ans. Il a été interpellé avec un briquet sur lui. Il n'est pas connu des services de police. Il avait donc ce briquet et ses mains recouvertes de suie lorsqu'il a été attrapé. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que depuis le début de l'année, depuis janvier, 32 suspects ont été interpellés, dont un tiers de mineurs pour ces incendies qui ont détruit depuis janvier 32 000 hectares en France. Alors on va rappeler que pour déclencher volontairement un feu de forêt, eh bien on risque 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Pour un incendie involontaire, les peines encourus vont de 2 à 10 ans d'emprisonnement et une amende allant de 30 000 à 150 000 euros. Autant dire qu'on ne va jamais au bout de ces peines. Enfin, on ne va jamais jusqu'à ces peines. J'ai regardé les dernières condamnations. C'est essentiellement du sursis. Il y a eu un peu de ferme. Mais c'est vrai qu'on se demande s'il ne faudrait pas être beaucoup plus sévère contre ceux qui déclenchent des feux. Et pas seulement de manière criminelle. Quand on dit aux gens d'arrêter de balancer les mégots et que certains le font, est-ce qu'il ne faut pas être impitoyable, Bruno Poncet, Antoine Dierce, Barbara Lefebvre, Antoine.
J'étais en train de regarder exactement comme toi les peines encourues et les peines prononcées. Les peines prononcées sont nettement en dessous. Je pense qu'il faut bien sûr aller sur un maximum des peines. Et puis surtout, on oublie une chose en France, c'est la notion de responsabilité. Celui qui brûle une forêt doit rembourser tous les dégâts qu'il a causés, et il sera endetté toute sa vie.
Il n'en a pas les moyens.
C'est-à-dire, mais il sera endetté toute sa vie. Toute sa vie, au moindre euro qu'il prendra, on viendra lui chercher. Voilà. Et voilà, on doit aller sur une culture de la responsabilité.
Quelle est la valeur d'une forêt comme Fontainebleau?
Elle est inestimable.
Tu l'estimes par rapport à ses revenus. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Antoine là-dessus. Pour tout d'ailleurs. Il faut qu'il y ait une réparation qui est calculée au prorata de ce que tu gagnes. On ne va pas tout te prendre, bien entendu. Il faut qu'il
te reste 800 balles.
Il faut qu'il y ait un reste à vivre. Mais on te laisse le minimum pour vivre et que tu puisses assurer les besoins de ta famille, mais on va te prendre toute ta vie, même quelque chose qui n'est pas seulement symbolique, pour montrer que toute ta vie, tu vas réparer ce que tu as abîmé. Là, moi, je veux quand même dire un mot à ce sujet, parce que j'entends, oui, heureusement, il n'y a pas de victime. Bien sûr, il n'y a pas de victime humaine. Mais la forêt de Fontainebleau a une faune absolument extraordinaire en Île-de-France. On a plus de 50 espèces de mammifères, des cerfs, des chevreuils, des renards, des fouines, etc. Il y a plus de 200 espèces d'oiseaux. Et je précise qu'en ce moment, c'est la nidification. Ça veut dire que vous avez beaucoup d'oiseaux, d'oisillons qui ne peuvent pas voler, donc qui vont mourir, qui ne pourront pas s'enfuir. Et 100% des espèces de reptiles d'Île-de-France sont dans la forêt de Fontainebleau. Donc aujourd'hui, les gens qui ont mis le feu, non seulement ils ont ravagé une flore absolument extraordinaire, un poumon de la région d'Île-de-France, mais ils ont tué des dizaines et des centaines de milliers d'animaux. Donc rien que pour ça, moi je suis désolée, pour moi, alors je sais, ça va vous choquer, c'est de l'homicide. Parce que je sais, mais moi, pour moi, c'est il y a mort d'un être vivant. Ces gens-là, ils devraient être sanctionnés de façon très beaucoup plus dure que ça, parce que c'est pas que du bois qui a brûlé, c'est aussi des vies qui ont été retirées par ces gens-là. Moi, j'ai lu quand même que les départs de feu étaient tous proches les uns des autres.
Oui, mais c'est pour ça que tout de suite il y a eu soupçon.
Dernièrement, Alors, c'était en ville, hein, bien sûr. J'étais pas au bord de la forêt. J'ai vu des gens, ils fument, ils jettent le mégot par la fenêtre.
Ah oui.
Et toi, t'es là, tu promènes ton chien et tu dis quelque chose. Alors, évidemment, t'as droit à une volée de bois vert d'insultes. Ouais. Les gens jettent les mégots par la fenêtre. Et ça, tu les vois tous les jours quand tu prends la voiture.
Ah,
c'est vraiment le
jugement
coutisme général. Donc là, c'était au bord de l'autoroute. Il y a peut-être des départs de feu qui sont aussi dus à des mégots jetés par
bien
la fenêtre.
Sûr. Bruno Poncet, faut-il durcir les peines contre ceux qui déclenchent des feux ?
Moi, je pense qu'il faut que les peines déjà soient faites, ce serait déjà pas mal.
J'ai appliqué, oui.
Déjà, et puis surtout,
oui, elles existent.
Je pense qu'il faudrait peut-être les, en fait, aujourd'hui, recréer des TIG et emmener ces gens qui au départ font un geste écocide, mais qui en même temps derrière brûlent la moitié d'une forêt en région parisienne, ce qui est dingue en fait. Je pense qu'il faudrait les emmener après ensuite dans des hôpitaux de grands brûlés. Qui travaillent dans un hôpital de grands brûlés, qui voient ce que c'est. Ensuite, il faudrait les emmener après dans la forêt, nettoyer la forêt, replanter des arbres.
Oui.
En fait, comme vous parlez de responsabilité, moi j'entends, je pense que l'argent, effectivement, ça ramènera une petite partie. Peut-être tu leur prendras du pognon, mais à hauteur de ce qu'ils doivent garder quand même pour vivre. Mais par contre, les emmener faire ça pendant un an, deux ans, trois ans,
aussi,
à un moment donné,
implique.
Ouais, quand tu ressors de là, je pense que tu n'auras plus envie de jeter quoi que ce soit, ne serait-ce que même pas un chewing-gum nulle part, tu vois. Parce que quand tu te rendras compte un petit peu des conséquences de chacun de tes actes, et Barbara a raison, moi je vois encore des gens ce matin, je suis un mec. Qu'il a jeté son mégot dans la rue, tu vois. Alors t'es dans Paris, c'est sur du bitume sûrement.
Oui,
je l'ai insulté par la fenêtre, je sais. Moi je te jure. Après s'il avait voulu descendre de la voiture, je pense que dans l'état que ça m'avait mis, je pense qu'on aurait pu.
Oui, en plus ce qui m'énerve, c'est que tu jettes parce que tu sais que quelqu'un va ramasser
pour
toi.
Bien sûr.
Moi c'est plus ce geste incivique qui m'énerve dans les villes parce que là il y a pas tellement de risque d'incendie, mais c'est plus oui comme on sait que il y a un éboueur qui va faire le boulot, je jette. C'est quand même très méprisant en fait.
Mais par contre tu vois,
et en plus ça coûte un pognon de dingue de ramasser des mégots de cigarettes, on le sait pour les villes. Hein. En plus, c'est débile parce que c'est un budget, donc les gens
payent. Ces feux là sont incroyables. À Fontainebleau, on a quand même vu des Canadairs arriver quasiment aux portes de Paris chercher de l'eau. Et surtout, rappelez-vous, ça fait quand même 4 ans que je suis chez vous. Ça fait 4 ans qu'on parle de l'absence de Canadairs. Que t'entends des gens qui te disent, on n'achète pas de Canadairs. Oui. Par contre, on va acheter des missiles pour les vendre à l'Ukraine.
Non, non, non.
On n'achète pas de Canadairs.
Les Canadairs, on les a achetés parce que quand il y a eu la crise, notamment après les grands incendies en Grèce en 2018, on s'est réveillé, on les a achetés. Il y a qu'une seule société dans le monde qui a le monopole. C'est une société, la société d'Aviland, qui est au Canada.
C'est très loin.
Et cette entreprise elle-même faisait un peu dodo. Donc tout le monde a relancé les commandes. Donc nous, apparemment, la commande qu'on avait lancée, elle devait arriver en 2026. Finalement, c'est 2028. Finalement, c'est 2030. Donc de toute façon, on n'aura pas de nouveau Canada.
Alors, qu'est-ce qui reste en 2030 ?
Donc, la question.
Qu'est-ce qui reste ?
Non, mais on a un arsenal assez important quand même. Parce qu'on a les Dash, on a les hélicoptères.
Oui, mais
c'est pas assez, Olivier.
Regarde, nous, t'as vu la surface d'espace boisé en France ? C'est incroyable. On a des forêts hyper denses partout et on n'a pas les outils.
Qui sont pas très bien entretenus.
Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut partager. On peut partager avec l'Europe parce que comme on a à peu près le même problème avec l'Espagne, la Grèce ou l'Italie, par exemple, on peut aussi mutualiser les moyens.
Mais le problème, c'est qu'on aura tous besoin en même temps.
Et voilà, la flotte espagnole. À un moment, oui, on va se faire aider avec les flottes espagnoles, mais les Espagnols, ils sont en plein avec les méga-feux aussi. Donc,
ils sont d'origine criminelle aussi.
Mais c'est là que tu peux te poser la vraie question. J'ai regardé la communauté économique européenne qui a duré de 1957 à 1993. Elle a quand même créé des trucs extraordinaires. On a créé Airbus en 78, Ariane. Esprit en 83 sur la technologie de l'info, Eureka en 85. C'est quand même nous en Europe qui avons inventé la téléphonie GSM et le format MP3. Depuis que c'est l'Union européenne, qu'est-ce qu'on a foutu ? Rien, même pas fichu de faire par exemple des Canadairs européens. De faire des, il y a des partenariats industriels qui auraient dû être montés. La CEE, la Communauté économique européenne, a fait 100 000 fois plus que n'aura jamais fait l'Union européenne. C'est bien le signe que cette Union européenne ne sert à rien. Elle a servi à diluer les responsabilités.
Néanmoins, je trouve quand même que assez formidable la mobilisation qu'on arrive à mettre en place là pour Fontainebleau, où t'as des pompiers, t'as 850 pompiers qui sont sur place. Certains sont venus du sud. J'ai vu qu'il y avait les pompiers de Disneyland Paris aussi qui étaient venus en renfort. On arrive quand même à avoir des moyens aériens. Je veux dire, moi, je veux bien qu'on tape toujours matin, midi et soir sur la France qui a pas le moyen. Il y a pas beaucoup de pays en Europe qui a pas quand même de mobiliser autant de monde. Et on voit quand même que la sécurité civile, ça fonctionne. On évacue les gens, on a évacué 900 personnes. Pour l'instant, il n'y a pas de victimes sur cet incendie. Alors, on a perdu un pompier la semaine dernière sur un autre incendie, un jeune homme. Il y a le système aussi du volontariat qui est assez quand même formidable, même si on manque un peu de volontaires.
À un moment donné, tous les pompiers
on peut
disent...
quand même se dire il faut mieux être en France que dans d'autres pays quand on vit
mais
de
tous les pompiers te disent qu'aujourd'hui, la mobilisation qui leur est demandée d'abord, elle est épuisante aussi pour eux et pour tous les pompiers volontaires.
en plus.
Mais en plus, tu déshabilles Pierre pour habiller Paul, parce que tous ceux qui sont rapatriés ici, si demain t'as de nouveau un méga feu dans le Doubs ou en Isère, il faut les rapatrier. Alors t'as pas fini avec celui-là.
Il va falloir tirer les conséquences du fait que c'est la première fois qu'on a un territoire qui est en risque incendie quasiment dans son intégralité. Ça c'est du jamais vu, parce qu'en général, les risques incendie.
C'était pas prévisible le réchauffement climatique.
D'accord, mais
il n'y a pas d'études là-dessus.
Oui, bien sûr, mais c'est toujours facile de dire après coup.
C'est pas moi qui gouverne. Je suis pas présidente de la France. C'est pas moi qui me suis fait élire. C'est Monsieur Sarkozy, Monsieur Hollande, Monsieur Macron, 10 ans. C'est pas moi. Donc ces gens-là, on les a élus pour qu'ils prévoient le réchauffement climatique. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. C'était Chirac. Excuse-moi, la preuve, elle brûle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien.
Par contre, Olivier, tu me fais un peu. Tu me fais un peu sourire. Tu nous dis oui, on a un pays. Il y a pas beaucoup de pays dans le monde qui sont comme nous, machin et tout. Ok. Ben moi, je pense réellement qu'avec 54% de mon salaire qui m'est prélevé au départ,
on est d'accord.
J'imaginerais plutôt que les forêts soient nettoyées avant, qu'on fasse plus
de fleurs. Alors c'est bon, visiblement. Droite, c'est Bruno, c'est
non, c'est pas ça, mais en fait, là, c'est bon, ouais, moi, je voudrais qu'on donne 50% de mon salaire en salaire différé, comme ils disent, mais je voudrais éviter qu'à un moment donné, on mette en danger tous les pompiers chaque été.
On est d'accord.
De mettre des gamins de 15 ans qui sont face à des feux où ils peuvent se faire.
Alors la forêt de Fontainebleau, où j'ai interrogé les pompiers hier sur BFM, est visiblement bien entretenue. Souvenez-vous, c'était 2 ans, les Landes.
Oui, les Landes, elles pas bien.
Les Landes, beaucoup disaient, c'est pas bien entretenu. Ça nous aide pas. Évidemment, Fontainebleau, c'est mieux entretenu. Et donc, ça aide aussi, même si c'est compliqué parce qu'il y a les rochers pour accéder à certains endroits. C'est pas une forêt.
Mais tu vois, chaque année, on voit pas, tu vois, après, comme disait Barbara, on tire pas les leçons. Chaque année, on ne voit pas des grandes campagnes à partir de octobre, novembre, dans nos forêts. On nettoie, on fait attention, on balise bien les choses. Tu vois, nos forêts sont laissées à l'abandon. Alors, les privés s'en parlent même pas.
Aussi dans les
forêts. Oui, les privés. C'est sûr que c'est mieux que les copains à l'archer, ils aillent faire un peu des tirs de tour aux pigeons sur des sangliers à 27.
On est bien d'accord.
À 27, plutôt. Que
ça y est, l'archer prend une balle perdue.
C'est quoi le rapport?
Et Patria, le sénateur Patria, qui a enfin pris sa retraite, qui était le roi des fêtes de chasse à Chambord, etc.
On a dit forêt, il fallait que ça glisse chasseur. Alors, mais il n'y a aucun rapport.
C'est pas eux qui t'entraînent la forêt, qui t'entretiennent la forêt.
Il y a 17 millions de visiteurs à Fontainebleau, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais autant de monde dans les forêts. Et donc, il y a un risque quand tu as 17 millions de visiteurs dans une forêt. Alors, toi, tu tombes sur un pyromane, soit quelqu'un qui va fumer une cigarette.
Des gardes forestiers, plus de gardes forestiers qu'avant en fait. 17 millions, tu viens de le dire, 17 millions dans une forêt comme Fontainebleau.
Elle est gardes forestiers entier, Fontainebleau. Parce
et
que
puis peut-être à un moment donné, voilà.
On va parler des gugus qui vont aller sortir le barbecue.
Ouais, alors ça c'est un truc de ouf, ça c'est vrai qu'on le prend chaque année.
Ça va toujours en avoir.
Les mecs ils sortent des barbecues dans la côté de forêt. Ce matin je suis passé.
Et là moi je te leur foutrais 5000 balles d'amende, ça va les calmer. Matin, son barbecue.
Ça fait cher la chipolata.
Mais t'as vu, oui, en plus ça fera des
pas
économies.
Pas très loin d'ici là, dans le 16e et tout. T'as vu comment c'est sec l'herbe? Mais juste un mégot. Ouais, tu rates le bitume, tu le fais tomber. Mais là tu fous un feu de ouf. Et puis avant que les pompiers arrivent, même si c'est des pompiers de Paris pas très loin, je peux te garantir que ça va être le temps de flamber. Moi je trouve qu'aujourd'hui comment tu peux expliquer à des gens aujourd'hui que les mecs ils sortent un barbecue ou que leur mégot de cigarette, pour eux, ça soit tiens, je le dégage dans une forêt, il faut être fou. En fait, moi, je pense qu'il faut être fou.
Et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'on en parle autant, parce que c'est normal, on en parle, c'est l'actualité, que ça donne aussi des idées aux vrais encore aux pyromanes. Parce que plus on parle des feux de forêt, des méga incendies,
oui,
etc., plus ça les excite. C'est pour ça, le pire, c'est, en fait, on ne devrait pas en parler trop pour pas susciter la perversité de ces gens-là. Mais encore une fois, derrière, l'État est faible et la justice est un peu lente.
Parmi les personnes interpellées.
Et plus rapide sur d'autres sujets, en fait.
Alors parfois, il y a des feux de conflits de voisinage. Et puis il y a aussi des profils quand même qui s'ouvrent de troubles psychologiques.
Oh là,
la pyromanie, c'est une maladie.
Alain, t'es avec nous au 32-16. Non, on a eu des pompiers pyromanes.
Il y a des pompiers pyromanes.
C'est ça qui est dingue, en fait.
Oui, moi je te les soigne vite.
Comme il y a des animateurs du périscolaire qui sont
pédocriminels.
Alain est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Mais vous nous appelez de Saint-Étienne, dans le département de la Loire. Que pensez-vous? Est-ce que les peines sont suffisantes contre ces pyromanes?
Alors moi qui suis d'abord un vrai écolo, je vais vous dire une chose, je connais très bien la forêt de Fontainebleau, je connais bien la région de Die également, je connais bien le Var qui souffre beaucoup, qui a beaucoup cramé ces derniers temps. Et moi j'estime qu'il faut des peines absolument exemplaires. Je suis scandalisé par le fait qu'on puisse avoir que du sursis ou un an, 2 ans de prison. Non, pour moi, c'est un crime contre la planète qui a été fait. C'est des crimes contre la planète, hein, des crimes contre l'environnement. Pour moi, ça doit être jugé de manière très sévère. Pour moi, il faut 20 ans de prison pour des gens comme ça. Quand c'est volontaire, c'est 20 ans de prison. Quand c'est involontaire, eh bien, ça doit être 10 ans de prison. Il faut que les gens comprennent. Et si c'est la seule manière pour qu'ils comprennent, moi je suis désolé, même quelqu'un qui, le type l'an dernier qui a transporté son bras zéro en pleine autoroute A9, en pleine canicule, ce type-là,
oui, c'est vrai.
Je suis désolé, allumé. C'est bras honteux, et c'est 10 ans de prison un type comme ça.
Ouais, mais ça, la bêtise.
Mais la bêtise, elle peut tuer oui, des choses, bien, elle peut tuer des animaux, elle tue des plantes. En foie de Fontainebleau, il y a une plante très rare. C'est un arbre qui s'appelle l'alizier de Fontainebleau, Aria latifolia. Il y a qu'en foie de Fontainebleau qu'on en trouve en France. Eh bien, cet arbre, il peut disparaître à cause de ces deux crétins qui ont foutu le feu à la forêt. Et moi, ça me fout en colère. Je suis un véritable écologiste. Hein, c'est quelqu'un qui respecte la nature et qui aime la nature. J'organise des sorties botaniques sur les plantes médicinales, sur les plantes comestibles. J'en ai organisé beaucoup en Fontainebleau. J'en organise dans le Vercors. La région de Dives, je la connais très bien. Et le Var, c'est pareil. Moi, ça me rend en rogne. Enfin, c'est le mot est faible. Hein. Je suis en colère par rapport à ces abrutis. Chaque année, c'est pareil. Chaque année, on le dit. Et chaque année, ça recommence.
Mais il y a plus de 10% de la forêt qui est partie en fumée. Hein. 10% n'est pas rien. Oui, c'est pas rien.
10% de Fontainebleau.
On comprend la colère. Ouais.
Ben oui,
merci,
ben voilà.
On comprend votre colère.
Mais vous vous rendez compte. Et moi, je suis désolé, c'est un crime contre la planète. Cette forêt qui est un patrimoine inestimable, c'est inestimable ce qu'il y a comme plante, comme variété de plantes, comme espèce, comme biotope.
Les animaux,
les sangliers, les cerfs.
Les pics. Il y a des espèces d'oiseaux très particuliers, les pics voilà. Notamment. Oui,
voilà, les lézards, les lézards verts.
Les vipères à spic, les petits crapauds. Voilà.
Ouais. On va pas tous les citer, sinon jusqu'à demain matin.
On va pas tous les citer, mais ça me fout
en rogne.
Et c'est la connerie humaine. Moi, je suis désolé, il faut la punir très sévèrement.
On est bien d'accord.
Je partage.
Voilà. Parce que
et soyons aussi sévères quand on porte atteinte à l'homme. Voilà, la nature,
oui,
c'est très bien, mais soyons également très sévères pour toute atteinte à l'homme.
Pas de problème.
Il faut être aussi sévère quand avoir on des porte victimes, atteinte hein. à la planète que quand on porte atteinte à l'homme. Voilà. Parce qu'on fait partie, de la
on
planète.
On est des animaux.
Entièrement d'accord.
Voilà.
Il y a les animaux humains et les animaux non humains.
Oui, bon alors là, ça y est, on va trop loin.
Parfaitement, c'est tout à fait vrai.
Alain, merci en tout cas, et on comprend votre colère, et d'ailleurs, on la partage, parce que c'est vrai que ça, c'est assez triste de voir cette forêt partir en fumée. On vous a posé la question, faut-il durcir les peines contre les pyromanes sur le compte X des Grandes Gueules, et qu'avez-vous répondu? Vous dites oui à 96,9%.
C'est clair et net.
Dans un instant, on va revenir sur cette histoire, cette étudiante qui a été violée à Aix-en-Provence par un homme qui venait tout juste de sortir de prison. Il avait été condamné pour viol à 18 ans. Alors, il n'a pas fait les 18 ans. Et le suspect qui venait tout juste de sortir a recommencé. Est-ce que là, une fois de plus, on a un problème d'une justice qui ne prévient pas la récidive? On en parle avec vous au 32-16. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story à 10h24 en direct en ce mardi 14 juillet, jour de fête nationale. Vous savez que c'est l'anniversaire d'une grande gueule aujourd'hui, Charles Consigny. On lui souhaite un bon anniversaire, Charles. Vous savez que Charles, on l'a connu, il devait avoir 23 ou 24 ans quand il est arrivé dans les Grandes Gueules.
Il en a à peine plus.
Et là, maintenant, il a 26 ans.
C'est ça.
Non, il en a 37. Enfin, je donne son âge. Allez, tant pis.
Ah, il a déjà deux liftings surtout. Deux liftings, Charles. Non, c'est le stress du boulot.
Le temps passe vite dans les GG. Bruno Poncet avec toi, Barbara Lefebvre et Antoine Diers. De quoi va-t-on parler? Je vous propose de revenir sur ce qui s'est passé, ce drame. Cet étudiant de 21 ans qui a été enlevé et violé par un homme qui venait tout juste de sortir de prison, donc récidiviste, mais 48 heures après sa sortie.
Ah bah.
Donc on voit bien que ce long séjour en prison n'a vraisemblablement pas dissuadé cet homme de passer une nouvelle fois à l'acte. Un homme de 47 ans qui a donc enlevé et abusé sexuellement une jeune femme de 21 ans. Et alors je disais 48 ans, en fait il était sorti de prison il y a un mois. Donc il était, il venait tout juste de sortir. Il avait été condamné à 18 ans, dont 12
de peine de sûreté.
Et il a rencontré cette étudiante qui loge dans une résidence universitaire d'Aix-en-Provence. d'Aix-en-Provence. Il l'a embarqué de force dans sa voiture. Ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. C'est la Provence qui nous raconte ça. Et ensuite, l'homme l'a menacé avec un couteau. Elle a réussi à joindre discrètement le 17 qui a pu établir qu'elle était en danger, mais la communication a été coupée et ensuite elle a été séquestrée durant 3 heures par l'homme, violée. Elle a réussi à fuir, elle a regagné son domicile, elle a pris le temps de retenir la plaque d'immatriculation de son agresseur et comme ça elle a pu identifier et l'homme a été arrêté très rapidement. Donc beaucoup de courage pour cette jeune femme qui a réussi quand même à confondre son agresseur. Et puis des questions sur cet homme qui est condamné pour viol, qui ressort et qui recommence, Antoine Dierz. Le problème de la récidive.
On souhaite évidemment un bon rétablissement à cette jeune femme. Je le dis toujours ici, la justice et l'État ont un rôle, c'est protéger les gens. Alors, évidemment, on va me répondre, oui, bah, il avait fait sa peine.
Il avait été condamné.
Il a fait 12 ans, il a fait les 12 ans de sûreté et pas les 18 ans pour laquelle il a été condamné, peine pour laquelle il était condamné. Et on va me dire, oui, mais Antoine, tu vas pas le garder en prison?
Eh bah, si.
En fait, pardon.
Non, pas au-delà de sa peine.
Mais non, pardon. Et c'est vraiment le paradoxe français, c'est que j'ai regardé ce qui se faisait dans d'autres pays, des pays démocratiques, hein. Au Royaume-Uni, quelqu'un qui sort de prison sur ce genre d'affaires, il y a ce qu'ils appellent la surveillance multi-agence. Donc on informe plein d'agences d'État et on assure une surveillance de ce bonhomme. En Allemagne, on peut avoir une logique de détention préventive. Si on considère que le bonhomme ne peut pas sortir, qu'il représente un danger, on peut le maintenir en prison, même au bout de sa peine.
Et les États-Unis. C'est ce qu'avait voulu Nicolas Sarkozy avec une période de rétention de sûreté.
Je vais aller au bout. Les États-Unis, il y a plein de dispositifs. On informe le voisinage. On peut appliquer des restrictions de résidence. Il pourra pas habiter à côté d'une école. On peut imposer de la surveillance GPS. On peut mettre un bracelet de surveillance GPS à quelqu'un qui représenterait un danger à l'issue de sa peine. Et il y a également l'internement civil, la notion d'internement civil, où ce n'est pas une peine, mais on considère que cette personne est un danger pour la société, et donc qu'il faut l'interner. Eh bien, il n'y a qu'en France qu'on continue à dire, ah oui, mais il a fini sa peine, donc il faut le libérer. Ah bah il sort. Ah bah il viole quelqu'un. Ah bah oui, mais bon, il devait sortir. Eh bien non, il y a plein de pays démocratiques, normaux, qui ont trouvé les solutions. Il serait temps
de soin, non, Bruno Poncet, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui a été donc condamné pour viol, qui visiblement ne sait pas contrôler ses pulsions criminelles et qui recommence un mois après.
Mais moi, Antoine a pas tort, c'est ça. C'est, si t'avais un fichier des délinquants sexuels et criminels sexuels, parce qu'on est dans du crime quand même, hein.
Oui, mais
je pense que ça serait quand même pas mal après d'avoir un vrai suivi.
Mais qu'est-ce que ça aurait changé pour cette jeune femme qu'il rencontre un peu par hasard et qu'il l'embarque?
Il n'aurait pas dû sortir, Olivier.
Si, il a un
psychiatre. Mais non, pardon, il y a un psychiatre qui fait une étude avant de le mettre dehors et le psychiatre, il dit, oula, les gars, il est dangereux celui-là. Moi, je le remettrais pas. Tu aurais quelqu'un qui doit être responsable de remettre un faux en liberté.
Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que le mec qui sort et en fait on n'a même pas déterminé avant qu'il sorte s'il était encore dangereux pour la société.
Exactement.
Et puis il y a aussi le sujet et on le dit toujours, mais
donc c'est la sortie de prison qui n'est pas suffisamment
mais non,
bien
mais même
contrôlé.
La prison elle-même, t'aurais dû le traiter en prison, t'aurais dû le soigner, t'aurais dû
ça soigne pas forcément,
il est peut-être incurable.
Après t'en as qui sont incurables, on peut être d'accord et dans ces cas-là faut à un moment donné qu'il y ait quand même une étude de psycho, mais sur plein de d'autres prisonniers il y a des choses qui sont faites. Pourquoi sur des violeurs et avec des mecs qui sont potentiellement récidivistes tu fais pas des trucs comme ça? C'est-à-dire que le mec, tu lui fais un suivi psychiatrique, comme ça tu sens comment il est. Le mec, s'il a aucune empathie, qui sait qu'il va recommencer, à un moment donné, tu fais stop.
Je vous rappelle quand même l'affaire de Karine Brunet-Jambou, qui était une petite fille qui avait été violée, maltraitée par ses parents et violée par un homme qui était hébergé par ses parents. Ce même individu qui avait également violé ses propres enfants, il avait été condamné à 30 ans de réclusion criminelle et là il en a fait que 8. Et que décide la justice, le tribunal de Caen? Elle décide que quand il est relâché, il peut venir se réinstaller à Rennes, à côté de sa victime.
Quelle horreur.
Voilà. Et je rappelle, vous en avez parlé, je crois, hier, les meurtriers de Shamseddine. Deux meurtriers relâchés alors que leur procès n'a pas encore eu lieu. Ils sont sous simple contrôle judiciaire. Ils n'ont aucune restriction à part ne pas résider en Essonne. Mais sinon, ils font ce qu'ils veulent. Pas de bracelet électronique, pas de pointage. Et attendez tranquillou bilou le jugement et le procès pour le meurtre de Shamseddine. On a un problème avec les meurtriers. Je ne parlerai même pas du meurtrier de Sarah Halimi, qui lui a fait croire à la folie et qui en réalité faisait la bamboche à l'unité de l'hôpital psychiatrique où il dealait de la drogue et où lui-même continue à se droguer. Tout ça pour finir par faire un homejacking et être maintenant enfin à la prison de Fresnes. Et on espère qu'il va y rester jusqu'à la fin de ses jours. Parce que c'est la justice, parfois, se fait rouler dans la farine par des criminels, par des délinquants. Moi, je ne comprends même pas qu'on relâche des gens comme ça. Que ce soit le violeur de Karine Brunet-Jambou, que ce soit les meurtriers de Shamseddine. Ces gens-là n'ont rien à faire dehors. Alors, il n'y a pas de place en prison. Toujours pareil, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai été élu en 2017, ni en 2012. Moi, je suis désolée, tous ces gens-là qui avaient promis des places de prison, qu'ils ne les ont pas construites. Eh ben, on n'a qu'à prendre la méthode Bukele, on construit des prisons vite fait, non, tac, tac, tac. Et puis après, on les met dedans. Alors, on va vous dire non, la Ligue des droits de l'homme, on va avoir tous les syndicats qui s'élèvent, c'est la fin de l'état de droit. Moi, je dis, et comme l'a dit en introduction Antoine, le rôle de l'État, le premier des devoirs de l'État, c'est la protection de ses citoyens. Et la protection des plus fragiles, la protection des enfants, la protection des personnes âgées, la protection des femmes qui sont les proies de prédateurs dans les rues. Donc ça, maintenant, ça doit cesser. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 ans, puis 20 ans ? Rien. Voilà, on le voit, la justice, elle continue à libérer des criminels. Et au moment où nous nous parlons, des violeurs comme ça, il y en a à plein les rues. Voilà, qui vous attaque à coups de couteau, qui vous menace. Cette femme a été d'une lucidité pour retenir la plaque d'immatriculation, parce que en général, la victime d'un viol, elle est dans un état tel d'état de sidération qu'elle a même pas le temps de retenir ces éléments-là. Elle a eu cette présence d'esprit. Sinon, on l'aurait pas retrouvé celui-là, parce que comme l'a dit Antoine, on n'a pas son nom. Il n'a pas été signalé. Et ces gens-là, ils doivent être signalés à la mairie, signalés à la population. Ça a été évoqué moment du truc des pédocriminels. Oui, oui. Il faut informer la population. Moi, je veux savoir s'il y a un violeur autour de chez moi, s'il y a un pédocriminel qui vient d'être relâché. Oui, je veux le savoir.
D'accord, voilà. Mais ça
changera peut-être rien, mais je veux le savoir.
Ce fichier n'aurait rien changé à ce qui est arrivé, parce que finalement, il a choisi un peu au hasard sa victime.
Au hasard, il a pris quelqu'un de fragile quand même.
Non, mais d'accord.
Il a pris quelqu'un d'isolé, de fragile.
Il avait été surveillé par la police.
Il l'avait repéré, mais déjà, on n'aura pas les moyens de surveiller tous les gens qui sortent.
Eh ben, tu lui fous un bracelet.
Il ne devait pas sortir. Il ne devait pas sortir. Étude psychiatrique. Moi, cet homme-là est encore dangereux. Il a fini sa peine. Oh, il l'avait même pas fini.
C'est pour ça que je dis. La sortie, les fichiers, etc. Mais c'est avant que ça se passe. C'est avant sa sortie.
C'est la prison.
Et là, on doit en prison identifier sa dangerosité et se dire, tiens, est-ce que vraiment il est apte à sortir?
Il a bénéficié
après l'histoire des fichiers du bracelet. On n'arrivera pas à ficher tout le monde. Et même si tu fiches, t'empêches pas quelqu'un qui a une pulsion sexuelle de passer à l'acte. En fait, je crois que le type, s'il est fiché ou pas, il s'en fout. Visiblement, un mois après, il recommence. Donc, en fait, il n'a rien à perdre.
Il a bénéficié de réduction de peine. Il a été condamné à 18 ans en 2013.
Oui, oui.
Il est sorti qu'au bout de 12.
Alors, il a peut-être fait de la prison avant, il faut vérifier.
Pardon, mais en fait, soit le bonhomme, on voit en prison qu'il va mieux, etc. Et alors, il a peut-être trompé tout le monde. Mais
oui,
moi, je pense qu'en réalité, la moindre étude psychiatrique aurait indiqué que cet homme-là continue à constituer un danger et qu'il fallait le maintenir.
On le sait, les services de psychiatrie, déjà, en temps normal, dans l'espace de l'hôpital public, c'est un problème. Alors, en prison, c'est encore pire.
Oui, donc ça repose la question des moyens que l'on donne aux régaliens.
Mais aujourd'hui, vous avez une grande partie des détenus qui sont sous antidépresseurs, sous anxiolytiques. C'est des zombies.
On les
casse.
Et on achète la paix sociale.
On achète la paix en les droguant, parce que même les psychiatres et les psychologues, ils n'ont pas le temps en prison de gérer aussi les problématiques psychiatriques de ces gens-là. Donc lui, si ça se trouve, on l'a foutu sous anxiolytique. Maintenant qu'il est dehors, il a plus d'anxiolytique.
D'accord, mais dans une campagne présidentielle, si tu dis on va mettre plus d'argent dans les prisons, etc., c'est pas ça qui te ramène des voix. Hein.
Tout le monde applaudit. Pardon, Olivier. Il y a une envie de sécurité.
Les gens vont applaudir si tu baisses les taxes sur le carburant.
Si tu construis des prisons, les gens sont d'accord. Et puis des prisons bien prisons. Pas des prisons indignes et pas des prisons non plus où tu rentres, tu sors. Les sorties pour aller au musée,
Sortie karting.
Il y en avait un là qui était violeur aussi, j'avais vu cette affaire-là, où il avait des autorisations de sortie pour se réinsérer. Non, tu ne te réinsères pas. Il n'y a pas de sortie pour se réinsérer.
Oui, mais alors, c'est contradictoire. C'est à la fois, il faut préparer la sortie pour que le type ne recommence
non,
pas.
Un violeur, on ne lui prépare pas sa sortie.
Le violeur, c'est
une prise en charge psychiatrique, psychologique, et ensuite, c'est du bracelet pendant au moins au moins plusieurs années, avec une stricte surveillance, avec du pointage au commissariat. Moi, je suis désolée, quand t'as violé, que ce soit un enfant, une femme, n'importe qui, tu dois savoir qu'ensuite, c'est pas parce que t'es relâché de prison que c'est open bar. Ensuite, on continue à l'extérieur de te serrer la vis le plus possible. Excusez-moi.
Alors, on a posé la question sur le compte X des grandes gueules. Est-ce qu'avec cette affaire, on est face à une justice complice par son inefficacité? C'est la question qu'on a posée et vous dites oui à 95,3%. Il n'y a pas vraiment photo sur les réseaux sociaux des grandes gueules. Dans un instant, parlons un peu politique et campagne présidentielle. Marine Le Pen est donc la candidate du RN et non Jordan Bardella. Alors visiblement, ça inquiète beaucoup les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise ne sont pas du tout rassurés par Marine Le Pen. Est-ce qu'ils ont raison, les patrons, d'avoir peur de Marine Le Pen si jamais elle accède au pouvoir? Eh bien, vous êtes chef d'entreprise. Appelez-nous au 3216. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
h 42, vous êtes toujours à l'écoute des grandes gueules. Merci de votre fidélité en ce mardi 14 juillet avec autour de la table sur RMC, RMC Story, Antoine Diers, le consultant en entreprise, Bruno Poncet, le cheminot, et Barbara Lefebvre, la prof d'histoire géo. Parlons un peu politique, parlons de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui inquiète les chefs d'entreprise. Oui, parce que certains patrons préféraient Bardella à Marine Le Pen. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que Bardella était un peu plus pro-business, pro-entreprise, pro-libéral, alors que Marine Le Pen aurait, selon certains chefs d'entreprise, un programme économique plus dépensier, moins pro-entrepreneur. D'ailleurs, il y a eu un déjeuner qui s'est déroulé le 7 avril dernier. Marine Le Pen avait été reçue, alors c'était pas un déjeuner, c'était un dîner, pardon, Marine Le Pen avait été reçue à dîner par une douzaine de patrons. Membre du club entreprise et qui avait été assez déçu de cette rencontre parce que sur des questions comme la réduction des déficits, le financement de la protection sociale, les retraites, la compétitivité, eh bien beaucoup de questions étaient restées sans réponse et les chefs d'entreprise étaient sortis un peu consternés après cette rencontre avec Marine Le Pen. Est-ce qu'ils ont raison de craindre l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir? Le 32-16, vous êtes chef d'entreprise, appelez-nous, Antoine Diers.
Le programme économique est un angle mort chez Marine Le Pen. Pardon, je sais que il y en a beaucoup dans mon entourage qui espèrent l'arrivée de Marine Le Pen, mais moi qui suis un libéral, je me demande quand même si une victoire du Rassemblement National aux prochaines présidentielles réglerait nos difficultés en termes d'endettement, leur position sur la retraite, on va pas travailler plus, etc. Et donc moi je pense que Marine Le Pen a de bonnes réponses sur un certain nombre des difficultés de notre pays, l'immigration, etc. Mais que l'enjeu économique et l'enjeu des finances publiques est tel que Marine Le Pen c'est un peu court. C'est un peu court, notamment pour réduire le déficit, parce que c'est tout le paradoxe du RN aujourd'hui. Un électorat très populaire à qui on continue à dire que la retraite, ce sera 62 ans, qu'on va pas toucher aux aides, etc. Et un électorat qui doivent conquérir plus bourgeois, plus travailleur, qui se dit je vais pas y aller.
Donc c'est du en même temps alors.
Exactement. On est pile dans le en même temps du RN qui essaye de convaincre deux électorats parce qu'il faut faire plus de 50%. Je crains que ça ait du mal à fonctionner. Alors, Éric Ciotti, à mon avis, va monter bien en puissance pour compenser,
J'ai lu cet article. Attention. C'est pas les patrons, les chefs d'entreprise. On a affaire essentiellement dans cet article du Figaro à des grands patrons. C'est-à-dire, on est sur les grandes entreprises. C'est-à-dire les entreprises qui ont plus de 5000 salariés. C'est-à-dire à peu près environ 300 entreprises en France. D'accord. Donc, ces grands patrons ont effectivement peur du programme économique de Marine Le Pen. En effet, le programme économique du Rassemblement National en 2022, c'est un programme pro-TPE-PME. Je veux juste rappeler ici. Donc, déjà, et deuxièmement, je voulais dire, pas un qui s'exprime publiquement dans l'article du Figaro. Hein. C'est tout anonyme. Hein. a dit un grand patron, a dit un chef
Ils
de
sont ça. Prudents.
Pas un qui donne son
Parce
nom.
Que
donc
peut-être
déjà,
qu'elle sera au pouvoir dans 10 mois.
Non, mais déjà, ça alimente. Non, mais Et ça peut. Non, mais excusez-moi, mais ça peut alimenter l'image qu'on se fait aussi de ces grands patrons qui ont en réalité des gros leviers politiques, oui. qui ont des candidats. D'ailleurs, c'est carrément dit hein, dans l'article. Oh non, on va être à fond sur Édouard Philippe. Hein. Bah oui, évidemment, ils nous ont fait le coup avec pas Macron. Ils vont nous refaire le coup avec Édouard Philippe. Donc en plus, ils se cachent même pas. Alors s'ils ne se cachent pas, qu'ils donnent leur nom
en
au lieu
temps,
de
c'est
parler
pas,
sous le couvert de l'anonymat.
C'est pas complètement illogique qu'ils soient plus Édouard Philippe que Marine Le Pen.
Ok, mais alors bah, qu'ils ne fassent pas. Non, mais excusez-moi, moi j'ai du respect à la limite pour au moins Monsieur Nil et Monsieur Pigas qui au moins ne se cachent pas. Ils sont publiquement, ouvertement pour tel ou tel. Mais eux là, ils sont tous à déblatérer sur Marine Le Pen. Oui, bah Vincent Bolloré également. Mais Vincent Bolloré, vous savez pas s'il vote Le Pen, excusez-moi. Hein. Alors que
oui,
Pigas,
bon,
on a compris qu'il vote
Mélenchon.
Ça dépend,
les TPE,
provocation.
Moi, je veux juste rappeler, oui, Marine Le Pen a un programme pro-TPE, PME, artisans. Et les TPE, PME, c'est 99,9% du cœur économique oui. de la France. C'est le cœur battant.
Essentiellement pour les grandes entreprises.
Il représente 47% des salariés. Oui, c'est souvent les sous-traitants. Ah oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que les grandes entreprises qui représentent seulement 28% des salariés français sont entre les mains aussi des sous-traitants. Donc, quand Marine Le Pen lutte contre l'optimisation fiscale des grandes entreprises et pour la suppression de la CFE pour favoriser les TPE, PME, je ne crois pas qu'elle fasse une politique anti-entreprise.
Alors,
elle fait peut-être effectivement...
Alors.
Ah ben, peut-être qu'elle rassure les grandes entreprises, mais quand vous dites, c'est pour ça qu'attention les journalistes, quand vous dites les patrons, c'est les grands patrons des grandes entreprises qui ont intérêt à ce que le système perdure. C'est pas la même chose.
Bruno Poncet, avant d'accueillir Jean-Christophe qui est justement gérant d'entreprise.
Alors moi déjà, je suis surpris, on m'avait toujours dit que Bardella, Le Pen, c'était la même chose, il n'y avait pas de problème. Et on avait entendu dernièrement dire que les grands patrons trouvaient Bardella pas mal quand même. Bon, il avait fait 2-3 boulettes quand il était à l'estrade, mais il le trouvait pas mal. Là, d'un seul coup, Marine Le Pen redevient stakhanoviste et redevient soviétique. Bon, bah écoutez, c'était prévisible, hein, on les entendait que ça. Moi, ce que je vois surtout, c'est que ces grands patrons, et Barbara a raison, hein, c'est pas le petit patron qui a 50 ans de salaire.
Il voudrait que ses impôts baissent, que les charges baissent.
Il n'est pas sûr qu'avec Marine Le Pen, en 2022, par le Rassemblement
national. Mais c'est surtout là on voit, c'est vrai.
C'est vrai, il faut réduire les dépenses sociales.
Et là, c'est vrai, c'est surtout des gens qui veulent surtout que le système ne bouge pas, qu'on continue à leur dire, on va vous réduire vos charges et vous permettre de continuer à avoir touché l'argent du CICE, de toucher encore des milliards de l'État français pour ensuite après délocaliser et faire des bénéfices records. Si. Ça, c'est les Pouyanné et compagnie qui risquent pas de vouloir changer le système.
Bruno juste un point. La lutte contre l'optimisation fiscale. Oui. Dans le programme de 2022, Marine Le Pen assumait, elle disait, il y a entre 80 et 100 milliards d'optimisation fiscale, c'est de la fuite. Et je suis désolée, c'est pas les TPE.
Fiscale, c'est légal. Hein.
Oui, c'est légal, mais ça se calcule aussi. Eh ben, je suis désolée, c'est pas les TPE, PME, avec moins de 10 salariés ou moins de 5 salariés qui font de l'optimisation fiscale.
Toujours libre circulation des capitaux, même si Marine Le Pen est ouverte.
Il y a quand même 100 milliards.
Ouverte,
si tu en reprends même que 30 ou 40, ça peut
j'aimerais
aider.
J'aimerais bien.
Mais Jean-Christophe est avec nous. On va l'écouter. Il est gérant de société dans l'énergie renouvelable du côté de Nantes, en Loire-Atlantique. Jean-Christophe, bonjour.
Bonjour à toutes et tous.
Vous avez combien de salariés?
J'en ai pas, justement. Et on arrive justement à cette problématique. J'ai des agents co, puisque le coût du travail en France ne me permet pas d'avoir des salariés.
D'accord.
Donc je les paye à la vente. Bah, vous voyez, on arrive exactement. Quand j'entends Barbara qui dit Marine Le Pen pour les petits patrons, vous savez, nous les petits patrons, on n'est pas stupides en fait. C'est que quand Marine Le Pen nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, et quand on lui demande comment, comme son acolyte Bardella, ils savent pas, il n'y a rien de financé. Donc si vous voulez, moi aussi, hein, moi je serais d'accord qu'ils fassent, qu'on soit tous contents et qu'ils fassent super beau.
Non mais c'est quoi faire ci, faire ça, je comprends
juste
pas.
C'est fini Barbara, ça s'appelle...
C'est-à-dire que vous trouvez que son programme n'est pas financé en fait, elle ne va pas suffisamment dans le détail.
Ben voilà, il n'y a rien de financé, donc si vous voulez... dire n'importe quoi, n'importe quand en fonction de l'auditoire, et Bardella c'est pareil, ils sont tous les deux incompétents. Donc quand ils auront un programme économique qu'ils n'ont pas, parce que moi je discute quand même beaucoup avec des gens du RN, ils n'ont pas de programme économique, ils sont en train de le faire.
Donc, vous voudriez quoi comme programme économique? Vous voulez le programme économique de qui?
C'est fini Barbara.
Mais citez-nous des programmes économiques.
Vous êtes tout le temps à la radio.
Attends, on va laisser Jean-Christophe terminer.
Parler un tout petit peu et ne pas être d'accord avec vous.
Oui mais expliquez-nous.
Vous voyez, voilà. Donc, on aimerait juste que le programme économique soit écrit et financer. C'est tout ce qu'on demande. Parce qu'aujourd'hui, parler d'économie avec des membres du RN, on parle de rien. Parce qu'il n'y a rien de financé.
C'est pas vrai. Voilà.
Moi, je vais
c'est
vous donner un exemple. Parce que moi, je vais vous donner un exemple concret. Quand elle est passée, quand elle était candidate, elle nous a expliqué qu'elle voulait supprimer les cotisations pour le RSI. N'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ensuite, elle nous a expliqué, alors j'ai eu un membre du RN là, qui m'a dit, ils veulent augmenter, ils veulent donner des heures supplémentaires. Moi, je trouve que c'est très bien, sans cotisation sociale. Il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que c'est très bien, ça amène du pouvoir d'achat. D'accord. Mais on finance comment? Aujourd'hui, nous, enfin, en tant que chef d'entreprise, on est toujours sur des données économiques. Donc, nous, on veut bien tout entendre.
Mais il faut dire comment on finance. Jean-Christophe, une question. Alors, qui a un programme économique crédible à vos yeux aujourd'hui sur la scène politique?
Eh ben, pour l'instant, personne. C'est bien ce que je dis.
Donc, voilà. Tapez pas comme ça sur les règles.
Je vais vous dire,
Jean-Christophe,
regardez les programmes. Non, mais Jean-Christophe, honnêtement, vous tapez LFI sur Google, vous tapez RN. C'est les deux programmes chiffrés. Vous nous dites qu'il n'y a pas de programme chiffré, c'est pas vrai. Alors après, que ça vous paraisse fantaisiste, oui. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez le droit de le penser. Mais aujourd'hui, il y a deux partis qui ont financé leur budget, leur projet, et qui ont financé leurs mesures, c'est LFI et le RN.
Moi, ce que je trouve fantastique, ce que vous êtes en train de me dire, parce que moi, pour discuter relativement souvent, parce que moi, je suis pas quelqu'un de fermé, moi, je suis prêt à tout entendre, et pour discuter relativement avec des membres du RN, voire même des cadres du RN, eux-mêmes vous disent, pas plus tard qu'il y a 48 heures, on est en train de préparer notre programme économique. Alors si
ils le réajustent,
financer, alors que eux-mêmes ils disent qu'ils sont en train de le préparer.
Non, ils le réajustent, mais les bases,
Barbara,
elles sont là, les fondamentaux.
Sincèrement,
ils sont là.
Mais Marine Le Pen, c'est comme François Mitterrand en 1981. Elle fait peur au monde économique. La réforme des retraites de Marine Le Pen, on n'y comprend rien. On ne sait pas comment elle finance. À chaque
tu
fois,
je pose la
question.
Tu me rappelles comment ça s'est fini en 81?
Ben, il a changé. Et deux ans après, François
alors,
Mitterrand s'est aligné.
Et après, c'est devenu la gauche.
Ça a été mieux parce qu'on partait quand même en direction qui nous emmenait droit dans le mur. Je te rappelle.
Moi, je vais
à l'époque, on pouvait dévaluer le franc, c'était plus simple.
Je vais te dire, la préférence nationale de la commande publique, ça rendrait service justement à
la réforme des retraites de Marine Le Pen. Je n'y comprends rien. Moi, je me défie quelqu'un de m'expliquer.
Barbara, c'est faux ce que vous dites. La préférence nationale, vous voyez, c'est ça. En économie, on peut. Excusez-moi, mais.
De la commande publique, j'ai dit.
Attendez, je vais juste me permettre de réagir sur ce que vous venez de dire. La préférence nationale, elle nous a expliqué qu'elle voulait mettre du protectionnisme en place. Mais du protectionnisme en place, elle va mettre du protectionnisme en place et vous allez voir que tous les pays extérieurs vont nous dire « Ok, bah vous voulez augmenter vos droits de douane, parce qu'il y en a déjà, bah nous on va le faire aussi. » Et là vous allez voir tous les producteurs de vin, de spiritueux qui vont dire « Ah bah nous on n'est pas d'accord parce que maintenant vu que vous avez augmenté les droits de douane, je vous donne un exemple hein, pour les États-Unis ont augmenté les droits de douane pour nous,
et
maintenant on va vendre moins. » C'est ça que je vous dis, c'est que l'économie, c'est sérieux en fait.
Et justement, et vous avez l'impression que ça affaiblit l'économie américaine? Vous avez l'impression que l'augmentation des tarifs douaniers que Trump a mis en place et les bras de fer qu'il a mis en place, ça a pénalisé l'économie américaine? Non, moi je crois pas. À long terme, ça. Non. Eh ben, excusez-moi, quand vous regardez le taux de croissance aux États-Unis, il est quand même meilleur que la France, hein. Alors, excusez-moi. Mais moi, dans la commande publique, notamment la nourriture dans les cantines scolaires, le matériel dans les écoles, dans les hôpitaux. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait une priorité aux entreprises françaises. Oui, figurez-vous.
Ça me dérangeait, Barbara.
Il faut pouvoir avoir les moyens de le faire.
Quand vous annoncez ça, il faut pouvoir le faire. Et derrière, vous allez avoir des incidences sur d'autres choses, sur d'autres.
Sur le social, il y aura des incidences. Oui, oui, ça sur le social, ça va serrer la vis.
J'avais pas fini.
Attendez, Barbara, tu peux laisser Jean-Christophe finir une phrase et on va s'arrêter là.
Ça serait pas mal.
C'est pas évident. Allez-y, Jean-Christophe, terminé et on s'arrête là.
Ça dérangeait la préférence nationale. Je dis qu'aujourd'hui, quand tu lances ce caillou dans la mer, l'économie, c'est que quand vous touchez une valeur, vous en avez des dizaines ou des centaines qui sont touchées autre part. Donc c'est pour ça qu'avant de venir annoncer n'importe quoi, il faut voir comment on finance et quelles sont les incidences que ça va engendrer.
Merci.
Et c'est ça que je dis, en fait.
Merci Jean-Christophe, merci d'avoir appelé au 32-16. On verra le détail du programme économique de Marine Le Pen, puisque maintenant, c'est officiellement la candidate. Dans un instant, on parlera bien sûr de Nice, 10 ans après les attentats, toujours aucune réponse sur les failles de sécurité. Est-ce scandaleux? À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.